fais semblant d'entendre la colère et l'angoisse.
Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous.
Des milliers d'ouvriers sacrifiés d'avance.
C'est à moi que je vais créer des emplois.
Moi, je suis socialiste et je l'assume.
Tu peux plier bagages. Il pleut. Dégage.
L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste.
S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes sur Radio Campus, il est 15h passé d'une minute, vous êtes sur Des Flips et des Flops, l'émission qui traite d'actualités politiques, écologiques et sociologiques. Donc comme à chaque émission, nous allons donc commencer par le climat, mais avant toute chose, donc nous sommes en présence, donc il y a moi, John et Philippe qui sommes aux manettes.
Bonjour à tous.
Donc voilà. Donc climat, hein, bon, on a pu voir ces dernières semaines de la chaleur, beaucoup de chaleur. Hein. Qu'en penses-tu, Philippe ?
Des règlements climatiques, ça fait des années qu'on sait, ça fait des années que personne ne fait rien, ça se produit. Dôme de chaleur, un petit 40 degrés annoncé la semaine prochaine à Paris, 37 à Lille. Ouais. Tout va bien, et c'est que le début.
Et donc... au niveau international, on voit que les signaux d'alarme se multiplient sur la planète. Le rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale tire donc bien la sonnette d'alarme. Il y a 80% de chances que l'une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée. Et il y a une probabilité de 70% que la température moyenne dépasse les plus 1,5 degrés Celsius. Un seuil critique de l'accord de Paris désormais menacé. Il a déjà été dépassé à maintes reprises, mais là, on parle en moyenne sur le long de l'année, en fait, concrètement.
C'est le côté irréversible. Il faut comprendre que le seuil de 1,5, ce n'est pas un chiffre sorti de nulle part, genre les 3% de déficit. En fait, c'est un seuil à partir duquel il y a des risques de déclenchement irréversible de conséquences sur le climat. Ouais. Alors, il y a déjà des conséquences irréversibles, mais des effets d'emballement qu'on ne contrôlera plus. On pourrait s'arrêter de polluer du jour au lendemain. Ça ne s'arrêtera plus.
Oui, voilà, puisque ça fait partie des limites planétaires à ne pas dépasser. Hein. Donc, et pour bien repréciser, que les gens recomprennent, en fait, la température moyenne globale de la planète, c'est 15 degrés. On passe à plus 1,5, ça paraît, peu, mais on parle d'un point de vue, là, pas d'un point de vue quantitatif, mais qualitatif, en fait. C'est comme quand on passe de 99 degrés à 100 degrés pour l'eau et ça boue. Donc voilà, c'est ça le gros souci. Sinon, il y a aussi le dégel des tourbières arctiques. C'est une autre menace discrète mais explosive. Les tourbières arctiques en Sibérie et au Canada pourraient bientôt relâcher du méthane et du CO2, de l'hydrate de méthane hein, concrètement, à grande échelle selon Nature Climate Change. C'est vraiment une bombe climatique.
C'est des quantités supérieures à ce que produisent les humains en CO2 à l'année. Mmh. Et le méthane est 4 fois plus facteur d'effet de serre que le CO2. Mmh. Autant dire que c'est la bonne grosse cata.
Ouais, c'est la grosse merde avec le pergisol là, qui a fondu. Et ben, voilà, on a ça maintenant qui arrive.
Tout ça se produit dans un contexte où ceux qui ont suivi l'actualité, le Green New Deal européen est largement remis en cause. Les quelques réglementations, efforts et budgets qui étaient prévus en France pour la transition, pareil, sautent. Parce que bon, faut payer nos armées pour aller faire la guerre à la Russie.
Quoi. 100 milliards sur 5 ans, c'est ça ? Ou par an, je ne sais plus, sur 5 ans ?
Sur 5 ans.
Voilà. Y a aussi donc dans le renforcement du cadre de la transparence climatique, quand même des bonnes nouvelles. La CCNUCC, la Convention climat de l'ONU, impose désormais un cadre harmonisé de suivi des émissions une avancée pour la transparence, même si certains critiquent l'absence de sanctions réelles. Parce que c'est vrai qu'ils n'avaient pas encore normalisé tout la façon de comptabiliser le CO2 et normaliser.
Côté chercheur, ouais. C'est un casse-tête d'essayer d'estimer les émissions de CO2 d'un pays, mmh. parce qu'on n'a pas des petits capteurs de CO2 au cul de chaque voiture et à la cheminée de chaque usine. Et donc, effectivement, les méthodes de comptage variaient beaucoup d'un pays à l'autre, ce qui faisait qu'il y avait un peu des risques ailleurs, ou en tout cas une difficulté à comprendre ce qui se passait.
Voilà, donc voilà. Donc ensuite, les temps, on retrouve encore des temps avec cette montée de chaleur, hein, des températures océaniques extrêmes. Dans le Pacifique Sud-Ouest, l'ONU signale des records inquiétants de température marine. Donc, comme lorsqu'on leur l'avait dit déjà, ça menace les récifs, les coraux, les pêches et la stabilité climatique. Sachant que voilà, celui qui capte le plus le CO2 dans le monde, c'est les océans. Hein. Les scientifiques appellent donc à une surveillance renforcée via Copernicus. Sinon, il y a quand même un petit peu de positif. Il y a des innovations climatiques aux USA, pas qu'aux USA, hein, mais là, c'est des start-up américaines qui lèvent 25 millions de dollars pour capturer du CO2 directement dans l'air grâce à la technologie DAC.
Oui, alors, je suis désolé de t'interrompre. Hein. Les technologies, on va désaliniser l'eau, on va capter le CO2, sont des grandes promesses. T'inquiète frère, encore 100 milliards et ça marchera dans 30 ans. La seule vraie solution consiste à arrêter de polluer maintenant.
Non, je sais, j'allais nuancer, hein, je vais faire peut-être. Mais les médias soulignent des doutes sur le coût réel et l'efficacité de ce genre de système. Mais pourquoi pas? Mais il y a quand même, tu sais, il y a des initiatives comme la ceinture de 2 km verte en Afrique, qui a été plantée en pas mal d'endroits, où des gens, pareil, hein, sachant qu'il faut à peu près 4 milliards d'arbres dans le monde pour choper tout le CO2. Il y a des gens qui ont planté beaucoup, beaucoup d'arbres en Inde. Il y a quand même des initiatives pour les gens qui ne laissent pas rien faire, tu vois, en fait. Donc, voilà. Donc, on voit que, voilà, sur le climat, là on va pas passer à travers l'augmentation de température, la goutte, comme les deux dernières années, hein, où on avait eu un été plutôt morose, grisâtre et pluvieux. Là, je pense qu'on s'en va vers un été comme les autres pays de l'Europe, chaud et avec des incendies à certains endroits. Donc voilà. En France, dans l'Hexagone, le climat devient aussi un enjeu social, politique et sanitaire. Une canicule précoce et durable est annoncée depuis le 19 juin. Plus de 60 départements connaissent des températures au-delà de 35 degrés. Les plus âgés sont déjà les premières victimes. Météo France évoque une tropicalisation du climat. Santé Publique France l'avait pourtant alerté. Donc, et pour expliquer vraiment ce que veut dire tropicalisation du climat, c'est-à-dire que les nuits, la température ne descend pas en dessous
30 degrés, de 35 degrés. Ce qui veut dire que les corps n'ont pas le temps de se rafraîchir. Mmh. Et donc, les corps les plus fragiles, les jeunes enfants, les bébés, les femmes enceintes, les personnes âgées, sont sujets à de vrais, sérieux, gros problèmes avec, comme j'évoquais, 15 jours de solution, la climatisation ou s'enterrer sous le sol.
Voilà. Donc, comme tu soulignais tout à l'heure, il y a une opposition française aux objectifs européens 2040. La France freine la réduction de 90% des émissions proposées par l'UE, car elle veut imposer le nucléaire. Un lobbying dénoncé par Greenpeace et le monde diplomatique. Il y a aussi la mise en œuvre du troisième PNACC, c'est-à-dire le plan national d'adaptation, est lancé cet été pour gérer les canicules et les inondations. Mais selon Elucide, il reste flou, sous-financé et surtout peu structurant. Concernant les mobilisations citoyennes associatives à ce sujet, Alternativa, les soulèvements de la terre, la résistance écologique s'intensifie malgré la répression et le silence des grands médias, souligne Blast.
Oui, il ne faut pas oublier que dans cette crise qu'on traverse, la seule solution sérieuse, c'est quand même la décroissance.
Oui, c'est vrai. Et repartir vers les low-tech. Sinon, il y a une critique des médias traditionnels sur le climat. Le traitement médiatique reste très événementiel, justement, parce qu'on ne parle que de canicules et d'incendies, mais pas un mot sur les causes systémiques comme l'agriculture intensive ou le modèle productivisme. Et le capitalisme.
Oui, donc, c'est un peu le sujet dans les sphères militantes en ce moment, de dire tiens, il y a un réchauffement climatique, c'est un climat à voter pour les Verts. Ça devient un marronnier, en fait. Et comme tout marronnier, là, comme les fêtes de Nouvel An, comme la fête des mères, ben, en fait, on y pense et on oublie, on passe à autre chose. Et c'est terrible que même quand il fait un peu gris au mois de février, on ne se dise pas que les problèmes continuent et s'aggravent d'été en été. Ça ne devrait pas être juste un marronnier.
Ouais, non, c'est triste, hein, parce que c'est, ça nous concerne directement et on voit, bah, on le voit, on le ressent. Notre corps le ressent. Aujourd'hui, heureusement qu'on a, bon, c'est mal, hein, on a la clim, même si la clim rajoute un petit peu aussi de CO2. C'est triste, mais bon.
Donc, surtout, elle rajoute de la consommation énergétique et ça, c'est un vrai problème. Le but, c'est de consommer moins d'énergie.
Ouais, faudrait reconstruire des structures plus, comment. Dans, comment dire, dans les déserts, tu sais, avec des systèmes d'alvéoles. Et bon, donc voilà. Donc, nous allons faire un petit break musical. Ça vient d'Andor, une série sur la résistance dans l'espace. Vous êtes de retour sur Radio Campus dans l'émission des flips et des flops au 106.6. Nous allons poursuivre avec ce qui s'est passé aux États-Unis et les répercussions de l'ICE. Mais avant toute chose, là, c'était le morceau de musique Past and Present de la série Andor. Voilà, c'est.
Série Star Wars.
Série Star Wars, mais qui pourrait être dans un autre univers, hein, concrètement. Mmh. Vu aussi pour ceux qui l'ont vu, puisqu'il n'y a pas de Jedi dans ces séries, concrètement. Donc voilà, aux États-Unis, pour résumer la situation, hein, il y a eu les mesures ICE, hein, l'Agence fédérale de contrôle migratoire, accusée de violence lors des arrestations et des détentions. qui a donné lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, notamment en Californie, à Los Angeles. Et le 14 juin, il y a eu la manifestation Knocking, puisque au même moment, Donald Trump faisait affaire à un défilé militaire, soi-disant pour son anniversaire, hein, en fait, qui ça correspondait à peu près à son anniversaire. Donc voilà.
Et... ça correspondait exactement à son anniversaire.
Oui, voilà, c'est ça. Et... et donc...
il y a eu du nouveau d'ailleurs, on l'avait évoqué il y a 15 jours, ce défilé militaire, ouais. Où on avait un peu jasé sur le fait que les soldats américains n'avaient pas marché au pas. Et en fait, il est apparu que lors des répétitions dans les camps d'entraînement, les soldats américains marchaient parfaitement au pas et que c'était un gros manque de respect de leur part volontaire vis-à-vis de l'administration Trump. Le fait d'avoir refusé de marcher au pas devant lui.
Ah, ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que quand même l'armée, voilà, tout le monde n'est pas...
les bonnes petites nouvelles.
Voilà, ça, c'est très très bien. Donc, il y avait quand même donc 14 millions de personnes en face, hein, dans la rue, manifestant de manière pacifique contre Donald Trump. Il y a eu aussi des révoltes à Portland. La police a qualifié d'émeute un rassemblement pacifique. Il y a eu plusieurs blessés. The Intercept, des tirs d'intercept parlent de l'usage disproportionné de la force. Il y a eu des agents qui étaient cagoulés, hein, alors que pareil, en France, hein, c'est interdit. Ils ont été filmés masqués pendant les interventions et des élus réclament donc plus de transparence. C'est donc une dérive paramilitaire qu'on a quand même vécu un petit peu aussi en France pendant les émeutes
des gilets jaunes
et mais aussi de Naël, hein, souviens-toi à Lille, porte des postes, l'image d'un gars du raid sur le pied sur un jeune, hein, concrètement, alors que bon, normalement il devait être employé contre des terroristes, à moins de penser que les jeunes des banlieues et des quartiers populaires soient des terroristes pour Donc voilà, donc il y a un projet de loi démocrate qui est lancé contre l'ICE. Un texte proposé par Alexandria Ocasio-Cortez vise donc à encadrer l'usage de la force et à garantir un recours aux détenus. Rejeté, bien sûr, par les Républicains.
Il y a eu un truc important là ce matin, c'est que la Cour suprême a donné raison à Donald Trump vis-à-vis de juges qui, dans des États, portaient des jugements à portée nationale. Les juges d'État ne peuvent plus avoir de jugements à portée nationale, c'est-à-dire que, du coup, les jugements ne s'appliquent que dans les États. Et donc, certaines lois fédérales s'appliquent dans certains États et pas dans d'autres. Et là, on parle des lois, effectivement, sur l'expulsion. Donc, il y avait des arrêtés de juges anti-expulsion qui ne s'appliquent que pour les États dans lesquels ils ont jugé, ce qui donne une balkanisation juridique, ça fait très bizarre à dire, mais une balkanisation des États-Unis qui est un peu... c'est quelque chose qui interroge pas mal. Ils n'ont pas été aussi fragmentés en tant que fédération depuis la guerre de sécession.
Ouais. Et ça, c'était il y a longtemps, dans les années 1862-63.
Leur guerre civile.
Oui, voilà. Leur guerre qui était aussi liée à de la discrimination, hein, puisque c'était contre
l'esclavage. Littéralement, ouais. C'est pas de la discrimination, c'est du putain d'esclavage.
Ouais, bon, c'est de la discrimination quand même, mais c'est l'ultime discrimination. Donc, il y a quand même d'autres choses positives. Il y a les sanctuaires civils, entre guillemets, qui réouvrent. Comme dans les années 80, des églises et des universités rouvrent des sanctuaires pour les sans-papiers. Le monde diplomatique y voit un retour à la désobéissance civile. Donc voilà.
Yep.
Ça, pour les États-Unis, je ne sais pas si tu as d'autres éléments que tu as...
Non, sur l'aspect de la criminalisation de la désobéissance civile, parce que forcément les Républicains ont expliqué à quel point c'était mal et c'était violent, et à quel point il fallait s'inspirer des exemples pacifistes de Gandhi et de Martin Luther King. Comme toujours, c'est un gros fantasme. Et quand les démocrates ont très largement relayé les revues de presse de l'époque qui montraient comment, justement, Martin Luther King était présenté comme un terroriste par les républicains de l'époque.
Ah, ça, c'est bien de le préciser, parce que même aujourd'hui encore, il y a des débats entre pacifisme ou action forte à la Malcolm X. Hein. Et pour rappeler les actions fortes de Malcolm X avec les Black Panthers, il y avait un super reportage fait par Arte qui expliquait que les Black Panthers n'avaient pas été attaqués ou mis en demeure par le gouvernement fédéral par rapport à leur action et au côté armé et violent, hein, concrètement. Hein,
il n'y a pas eu que ça, il y a aussi des actions directes qui peuvent être surprenantes. Ils allaient à Chicago réparer les chaudières dans les HLM, c'est-à-dire dans les HLM, les chaudières cassées, pas entretenues par les bailleurs sociaux. Non, il faisait... Ils allaient réparer eux-mêmes. Ils forçaient les serrures et ils réparaient les chaudières.
Il faisait justement, c'est ça.
C'est de l'action directe.
Ils faisaient de l'action directe, des actions en direction du peuple. Et justement, ils ont été... c'est pour dire, justement, dans le reportage, on voit qu'ils partent, par exemple... au Capitole, armé concrètement, et dans les rues, lorsqu'il y a des patrouilles et des arrestations de gens issus de des quartiers populaires et de leur classe, ils étaient en train de ils faisaient bruiter le chargement de leur fusil à pompe, tu vois, c'est-à-dire donc le chargement du fusil à pompe répondait, et ça donc c'était c'est assez impressionnant, hein, concrètement. Mais à ça, ils n'étaient pas en réaction à ça. C'est à partir du moment où, comme tu le disais, ils ont commencé à aider le peuple, et notamment à distribuer de la nourriture pour les jeunes scolarisés. Edgar Hoover a décidé d'envoyer le FBI et les considéra comme des terroristes. Donc voilà, c'est vraiment, il y a toujours il y a toujours le côté pacifique, mais il y a la violence qu'il faut mettre en avant. C'est toujours en face, le capitalisme, si tu le menaces pas, il ne répond pas concrètement.
Les violences policières existaient aux États-Unis très longtemps avant l'existence des Black Panthers. C'est pas les Black Panthers qui avaient commencé.
Voilà, non, c'est toujours la force de l'État qui prime dans ce genre de problème. Donc voilà. Donc en transition, nous allons passer un morceau de Joey Gluten, Summer Freestyle.
Un artiste local de Tourcoing. Ok.
Je voudrais d'abord que vous calmiez.
Trop bien.
Le soleil tabasse comme un keuf trop zélé, qui a trop cru que les manifs c'était Smash Bros mêlé. Je sais pas si c'est le pollen ou les lacrymogènes, mais y'a comme un truc dans l'air qui vient me chatouiller le zen. Les petits oiseaux chantent et si on parlait l'oiseau, on capterait qu'ils chantent plein de trucs v'là méga beau, genre
tout le monde déteste la police. Ouais, tout le monde déteste la police.
Et ça passe des lois, ouais ouais ça passe des lois, quand tout le monde sort les maillots à la playa. Mais salut c'est nous les pauvres, on est la faille dans ton plan. Chez nous y'a pas de vacances, y'a que le bordel tout le temps. On check bison futé pour l'itinéraire du cortège. Veste qu'il est juilletiste en route pour l'Ariège. Vigilance rouge et noir quand tu bronzes comme un lézard sur un caillou. Nous on les balance et pas au hasard.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Pour détruire les couches d'art, faudra te lever tôt.
On réquisitionne juste l'espace public, comme la flicaille réquisitionne les crouses pour les JO. Tu veux jouer?
Okay.
On va comparer les victimes. De notre côté, des bagnoles brûlées et des vitrines. De ton côté, t'as des morts, mais c'est tout le temps ta faute. Et 343 meurtres depuis 2010. Et au JT, jamais on en parlera.
Non.
C'est aussi peu surprenant qu'un code PIN d'Antifa. Mais nous, on n'oublie pas, n'en comptez pas là-dessus. Même s'il fait trop chaud pour les cagoules, on prend la rue. En fait non, tu crois que c'est ton tir, on a ta plaque et ton nom. Ouais bande de porcs, personne vous aime à part les vieux fafa brevets à BFF.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Leur casser la gueule.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Sous le joli ciel bleu azur.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Les démonter, démonter.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du keuf.
Sous le soleil qui brûle.
Le point positif du réchauffement climatique, c'est que vous allez crever de chaud sous vos armures dystopiques. L'arrêt du cul irrité par la sueur qui brûle et qui pique.
Plus ça gratte et plus tu regrettes tes élans patriotiques.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Ah,
comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Casser du, casser du, casser du.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
De monter de la volaille, ouais, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Oi, oi, oi.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Casser du cœur, ouais.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Les démonter, démonter.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Nique la police.
Comment qu'il fait beau, ça donne envie d'aller casser du cœur.
Ah.
Comment qu'il fait beau.
C'était donc Joey Gluten, Summer Freestyle. Donc voilà, voilà. Après, donc nous sommes de retour donc sur Radio Campus, 106.6, et dans un peu plus d'une demi-heure, nous écouterons Dete Fabula de Narrator, présenté normalement par Thibaut et Philippe. Donc nous verrons. Donc voilà, nous faisons donc une transition, nous passons toujours dans l'international, là nous revenons sur ce qui avait démarré donc le conflit Iran-Israël après les frappes d'Israël sur l'Iran, sur les sites dits fabricants du nucléaire militaire. Donc les frappes israéliennes ont visé concrètement Fordo et Natanz entre le 13 et le 22 juin. L'objectif, c'était de ralentir donc le programme nucléaire, mais l'AIEA indique que ces sites pourraient être reconstruits de toute façon en moins de 2 ans. Sinon, il y a eu des assassinats aussi ciblés pendant ces frappes. Plus de 30 généraux et ingénieurs iraniens ont été tués. L'opération surnommée Red Wedding a choqué l'opinion mondiale. Des violations carrément du droit international sont évoquées. Hein. Et de toute façon, je ne sais pas si vous avez aussi vu que Macron, Emmanuel Macron, a parlé de légitimité et de légal, que les actions n'étaient pas légales, mais elles étaient légitimes, puisque ça détruisait le nucléaire iranien.
La France, d'ailleurs, s'est impliquée en défendant le territoire d'Israël. Hein. On a intercepté des missiles iraniens à plusieurs reprises dans cet échange de tirs.
Oui, c'est vrai, parce que le dôme de fer qui doit protéger normalement Israël connaît quand même des un niveau de saturation. Voilà, un niveau de saturation. Et avec leurs nouveaux missiles hypersoniques, les Iraniens ont réussi à faire passer quelques missiles. Et les Français ont intercepté pas mal. Après, il y a eu aussi une annonce d'attaque au Qatar, hein, des bases militaires américaines. Mais là, il n'y a rien qui est passé. Hein, tout a été intercepté. Donc voilà. Sinon, il y a eu
Pour rappel, hein, l'attaque contre la base américaine au Qatar correspondait à quelque chose qui s'est passé qui n'est pas anodin dans cette affaire, à savoir que Trump a fait frapper le territoire iranien sans aval de son congrès. Oui. Normalement, il doit toujours avoir l'aval du congrès. Alors, c'est pas forcément un truc annoncé en public qui permettrait à l'Iran de se défendre. C'est des décisions qui peuvent être prises dans le plus grand secret. Mais Trump a engagé la puissance militaire américaine sans aval du congrès, ce qui est quand même assez inédit, quoi. Ouais. Et assez flippant.
Oui, voilà. On part dans une façon de gérer dystopique aux États-Unis, et peut-être une façon, justement, le roi, hein, comme un roi concrètement, comme notre cher Jupiter, n'est-ce pas ? Des ressemblances. Donc, les impacts civils sont importants du côté iranien, environ 610 morts, 28 côté israélien, coupures, incendies, traumatisme national. Al Jazeera parle de chaos durable.
Le régime iranien aussi, dont on va rappeler quand même que ce ne sont pas des anges, hein, on n'est pas là pour les défendre.
Ah non, pas du tout.
On est là pour défendre le droit international. Mais le régime iranien, pour faire bonne mesure, a coupé Internet dans tout le pays. Officiellement, dans un but de protéger des attaques étrangères. Dans la pratique, c'est bien utile. Ça permet de laisser les citoyens avec pour seule source d'information les informations qui proviennent d'Iran, qui sont contrôlés par les Iraniens. Ça permet d'appliquer une censure assez efficace. Donc ça aussi, c'est un petit peu un dommage collatéral sur la liberté de la presse et la liberté de s'informer en Iran.
Ouais. Il y a aussi de l'autre côté aussi des cyberattaques massives. Hein. La banque CFA, liée au gardien de la révolution, a été paralysée et le Times évoque une opération conjointe Israël et Royaume-Uni, hein, contre cette banque israélienne. Donc il y a un effet boomerang politique, hein, concrètement. Au lieu d'affaiblir le régime, l'opération renforce en fait le nationalisme iranien. C'est donc une suspension des critiques internes au régime des Mollahs. Hein. Bon, on n'est pas là pour non plus le retour du chat, mais voilà, c'est...
Le retour du chat est juste absolument inaudible. Hein. Ça serait demander le retour du tsar en Russie, c'est non. nous ne sommes pas pour les Mollahs, mais alors le chat, c'était vachement grave ce qu'il faisait avant. C'est pas pour rien que les gens s'étaient révoltés là-bas.
Ça c'est clair. Donc... la crise politique, maintenant, après la pause suivante, nous parlerons de la crise politique en France autour de François Bayrou.
Looking at the bus stop night.
Vous êtes de retour sur Radio Campus au 106.6 dans l'émission Des Flips et des Flops. Nous allons maintenant aborder l'actualité politique française. Hein. Bon, nous passons les histoires du Front National hein, qui sont toujours en cours hein, avec leurs problèmes juridiques et de détournement de fonds. Là, il s'agit aujourd'hui de la question de censurer ou pas le gouvernement Bayrou. Le 26 juin, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu le délibéré sur la censure ?
Pas encore. En fait, la motion de censure a été posée par le Parti Socialiste. Pour rappel, ça fait suite à l'échec du conclave sur les retraites qui avait été promis par François Bayrou pour éviter une motion de censure quand il avait été nommé Premier ministre. Hein, si on se rappelle, François Bayrou nommé Premier ministre, tout le monde veut lui tomber dessus et il ne doit sa survie qu'à la trahison, comme d'habitude, du Parti Socialiste. Donc, oui, Parti Socialiste, trahison, c'est une seconde nature chez eux.
Je dirais pas que c'est une nature de la trahison, je dirais qu'ils font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire décevoir le peuple.
Et en tout cas, le Parti Socialiste avait obtenu un engagement, promis juré, François Bayrou allait convoquer un conclave sur les retraites, on allait voir ce qu'on allait voir, il y aurait des mesures de gauche qui sortiraient, parce que François Bayrou a construit sa carrière en promettant qu'il était ni de gauche ni de droite. On sait ce que ça veut dire, hein. C'est ni de gauche ces trucs-là. Mais donc le conclave, étonnamment, n'a rien donné. Les syndicats ont claqué la porte. François Bayrou a fait semblant d'être triste. Il a fait ouin ouin, je comprends pas, j'ai mis les bonnes conditions de débat, donc je vous réinvite à un nouveau conclave. Faut imaginer que même la CFDT a dit qu'elle irait pas. Alors si même la CFDT, elle va pas débattre, le syndicat de débat...
Justement, en plus, le premier à avoir claqué la porte, c'était FO. Elle s'en est suivie un peu plus tard quand même, la CGT. Mais c'est vrai qu'il n'y avait vraiment pas moyen de discuter, puisque tout était posé d'avance.
Et donc, le Parti Socialiste a dit « Oh là 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 là, nous à l'époque, on n'avait pas voulu voter la censure parce qu'on espérait un gain sur les retraites, donc on repose une motion de censure maintenant. » Qu'est-ce qui va se passer ? La motion de censure ne peut passer, malheureusement, et ça fait vraiment putain de chier qu'avec le vote des gros fachos en face. Est-ce que ça va passer ou non ? Est-ce que c'est même souhaitable ou non ? Ça, je sais pas trop.
Pour l'instant, le RN annonce officiellement qu'il ne fera pas ce vote, mais bon, ils annoncent des choses, ils font le contraire, souvent. Donc, on sait pas, comme tu dis, hein, et en plus... Et s'ils le font pas, c'est un signal qu'en fait ils ne veulent pas l'abrogation de la retraite à 64 ans, hein, concrètement. Et justement pour
ce serait une grande surprise.
Pour revenir sur la tentative de censure de la motion déposée cette fois-ci par LFI, si le PS l'avait voté, là le RN l'avait suivi. Et là aujourd'hui, le RN explique par la voix de Jean Tanguy, je crois que c'est ça, qu'ils attendent le budget, c'est-à-dire plutôt de faire ça en automne comme prétexte. Quoi. Donc on verra si. S'ils suivent ce qu'ils disent ou s'ils font ce qu'ils disent, mais bon, concrètement, c'est juste des apparatchiks, hein.
Oui, et puis bah, encore une fois, on paye les conséquences d'un PS qui fait n'importe quoi et qui a beau se proclamer à gauche, dès qu'il est aux commandes, dès qu'il est aux manettes, fait absolument n'importe quoi des politiques de droite.
Ouais. Sinon, autre chose politiquement, c'était au niveau du Sénat, qui n'ont toujours pas, ils ont voté des augmentations de salaire, mais là ils ne sont toujours pas OK pour indexer les prix sur l'inflation. Je veux dire les prix des salaires sur l'inflation. Donc voilà dans la fonction publique. Sinon d'autres choses, est-ce que tu vois d'autres choses au niveau politique national?
On a largement évoqué les reculs écologiques forts, ouais, énormes du gouvernement en ce moment, ouais, ça, on les a déjà évoqués, on va pas revenir dessus. C'est vrai qu'on est tous un peu tétanisés par ce qui se passe à l'international, ouais, ce qui est en train de se passer nationalement, est quand même complètement fou aussi. Hein. On est bien lancé dans l'ultralibéralisme et dans le déni de réalité par rapport au réchauffement climatique.
Ah. Ok. Et donc, comme on parle d'international, on va continuer sur cette fois-ci d'abord la guerre en Ukraine, où on en est avec le conflit russo-ukrainien.
Oui. Alors, l'essentiel à noter, c'est effectivement l'effacement de ce conflit qui est toujours très actif, avec toujours des souffrances, des populations civiles bombardées en Ukraine massivement. Effectivement, on est sur une guerre qui bouge pas. C'est pas de la guerre de tranchées, mais pas loin. Et la couverture médiatique existe quasiment plus, ce qui est assez surprenant, mais on va enchaîner de toute façon sur la suite. Il y a plus grave que d'oublier encore le conflit ukrainien. Oublier le conflit ukrainien est déjà grave, mais oublier Gaza,
voilà,
c'est
c'est autre chose. Gaza, voilà, le massacre de la population civile au prétexte de chasser les gens du Hamas.
Le génocide, hein.
Ouais, voilà, le génocide, oui, qu'on peut qualifier, hein, puisque maintenant un papier de Harvard est sorti, j'attends des précisions là-dessus.
Oui, c'est ça, donc qui évoque la disparition, donc dans des termes extrêmement polis et gentils, de plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qu'on n'arrive pas à retrouver à Gaza. Alors, le papier d'Harvard est plus prudent, on évoque qu'il y a aussi une déstructuration administrative, on ne sait plus vraiment gérer, etc. Mais on parle de 300 à 400 000 personnes manquantes, c'est un sixième de la population. Ça devient compliqué arrêter de nier que ce soit un génocide. Quand on tombe dans ces chiffres-là, c'est gigantesque, ça rend complètement fou. Il y a eu des marches organisées par la LDH notamment, hein, qui sont allées jusqu'à Bruxelles pour tenter de rappeler que le sujet existe toujours, que ce massacre continue et se fait avec notre soutien à nous, Européens.
Ouais. Oui, parce que après la flottille dont on en a beaucoup parlé avec Rimassan et Greta Thunberg, il y a eu une marche qui partait du Maghreb pour aller en Égypte par voie routière, en fait, concrètement, le long de la Méditerranée. Mais il y a aussi en France, à l'initiative de la LDH, une marche partant de Paris pour Bruxelles pour signifier, en fait, qu'il y a un problème et qu'il fallait revenir sur les accords commerciaux, hein, puisque c'est le seul biais par lequel on peut interférer en fait dans ce massacre de population civile au prétexte d'une chasse de terroristes, de soi-disant, je veux dire, de terroristes avérés, mais en considérant que toute la population soutienne ce terrorisme, alors que ce n'est pas le cas.
Donc, on rappelle, la LDH, c'est la Ligue des droits de l'homme.
Voilà, la Ligue des droits de l'homme. Et la marche à Lille s'est bien passée. Hein. Concrètement, elle avait été en plus tout le long de la marche. Il y a eu Corinne Maziron, hein, qui l'a faite, il me semble, comme personne célèbre. Donc, vous avez peut-être pu entendre sur certaines chaînes son discours à ce sujet sur Gaza et sur le massacre.
Avec une participation, hein, de l'association France-Palestine Solidarité, qui est très active localement pour justement continuer à éveiller les consciences sur ce qui se passe à Gaza.
Parce qu'il faut se souvenir que, au lieu justement de répondre positivement à ces marches et à ces appels au secours, en France, on a un ministre de l'Intérieur qui dissout Urgence Palestine et qui dissout aussi contre le fascisme la jeune garde. Voilà, des choses qui sont utiles normalement, mais voilà, le problème est qu'on ne veut pas les écouter. Donc, sur Gazos, je ne sais pas si d'autres éléments on peut apporter. Il paraîtrait qu'il y a une flottille qui vient d'Asie, en fait, aussi, qui se prépare.
J'ai pas entendu.
Ah, t'as pas entendu, moi,
j'ai vu
ça sur les réseaux. Ils annonçaient 1000 bateaux, mais ça sera certainement moins.
Ça rejoint ce que j'allais évoquer, enfin ce qu'on a déjà évoqué. Hein. Le silence médiatique autour de Gaza en ce moment est assez hallucinant. Ça fait même pas les colonnes secondaires des journaux, alors que les bombardements et les massacres continuent sur base quotidienne. Donc ne plus en parler, c'est vraiment grave en fait.
Ouais. Non, en plus, quand on en parle, quand les médias en parlent, c'est souvent pour dénigrer toutes les actions, hein, concrètement. Hein. Sur la flottille, ils disaient déjà que c'était genre une croisière, concrètement.
Ah oui.
Donc, ou pour dire qu'ils ne luttaient pas bien et qu'ils ne parlaient pas, par exemple, d'autres génocides, comme celui du Soudan, dont on parlera dans quelques instants. Donc, voilà, non, il faut se souvenir, donc voilà, que. La Palestine est toujours là et qu'il faut que le droit international s'applique et qu'Israël se retire des colonies, concrètement.
C'est tout. Se retire de la Palestine. Les colonies, c'est eux qui les imposent.
Ouais, je sais, ça, se retire de la Palestine, ouais. Après une autre pause musicale, nous allons passer à la partie concernant le Soudan.
Days we were young, we took photographs of everything we could see. We knew we were impervious, no matter how we'd bleed. We never fought for breath, peace and prophetess. We were nothing we would defy. Invincible skin. Dream state.
C'était donc Dream State de Son Lux. Donc vous êtes de retour sur Radio Campus 106.6. Il est 15h46. Donc voilà, nous passons donc maintenant au conflit qui se déroule au Soudan, donc en Afrique de l'Est, où la guerre vire vraiment à la catastrophe humanitaire. Depuis avril 2023, l'armée soudanaise, le SAF, affronte les milices RSF de Hemeti Dagalo. Le bilan estimé pour l'instant est de 150 000 morts, selon Le Monde. L'ONG ACLED en a confirmé 28 700, dont 7 500 civils tués directement. Mais au-delà de ces combats, c'est une hécatombe silencieuse. 522 000 nourrissons sont morts de malnutrition, selon l'OMS et l'IRC. Un chiffre absent des bilans militaires. Donc voilà, là on a aussi affaire à un vrai génocide, hein, concrètement, avec le nombre de morts.
Alors, ouais, mais là, pour la différence avec Gaza, c'est qu'il s'agit en réalité de grands massacres, d'une guerre civile. Il n'y a pas de dénonciation. Les Soudanais qui se massacrent entre eux ne font pas de différence de population entre eux. Où on en reparlera tout à l'heure dans une note plus positive sur ce qui a pu se passer en République démocratique du Congo. Là, on est sur, en fait, les soubresauts du Soudan. Donc le Soudan qui, historiquement, avait était un des plus grands états d'Afrique, le plus grand d'ailleurs territorialement pendant longtemps, très peuplé. Il y a eu l'indépendance du Sud-Soudan où se déroule également en ce moment une guerre civile, pareil, assez importante. Là, on est sur 400 000 morts, hein, depuis l'indépendance du pays en 2011. Pareil, c'est pas rien comme chiffre. Et le Soudan du Nord, pour ce que ça veut dire, le Soudan en tout cas tel quel, avait renversé son dictateur historique. 2019-2020, si ma mémoire ne me joue pas de tour, il y a eu un petit espoir, pour reprendre l'expression dans le jeu vidéo Disco Elysium, pour ceux qui connaissent. Pendant un moment, il y a eu de l'espoir. On a cru qu'une démocratie pourrait s'installer, et en fait, c'est reparti en putsch militaire sur putsch militaire. Et là, ce qu'on a, effectivement, c'est de l'affrontement entre deux généraux, avec des interventions extérieures. Donc, on parle vraiment d'un grand État africain, 50 millions de personnes, un territoire étendu qui était relativement prospère, hein, on va être clair, c'était pas l'Allemagne, mais qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, comme tu l'évoquais, avec des grands massacres de population, des situations de famine. On se souvient des grands massacres quand le gouvernement mettait la pression sur la région du Darfour, qui était vraiment assez terrible. Et donc aujourd'hui, on a un État qui est en train de s'effondrer sous nos yeux dans une guerre civile généralisée. Les combats autour de la capitale, Khartoum, qui est une grande ville, ont lieu en ce moment, et c'est assez flippant de se dire qu'une grande ville comme Khartoum est l'objet de combats.
Tout ça, ça a donné lieu donc à beaucoup de déplacements en interne, hein, plus de 16 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés.
Ça fait un tiers de la population.
Ouais, voilà, c'est pas mal. Et il y en a aussi dans d'autres, j'allais dire sur d'autres continents, en Asie en ce moment c'est pareil, hein, il y a un conflit qui est en train de naître entre la Thaïlande et le Cambodge pour du territoire, hein, 1 million de gens qui sortent de Thaïlande. Mais là, donc, pour le Soudan, ouais, non, c'est vraiment à une échelle dramatique. Donc voilà. Mais tu avais de bonnes nouvelles quand même à dire, tu me disais ?
Alors on est toujours sur le continent africain, beaucoup plus au sud, hein, du coup, quelques milliers de kilomètres plus au sud. La République démocratique du Congo, dans l'Est, il y a des grandes mines de diamants, et ça a été l'objet de tonnes de massacres et d'affrontements depuis plusieurs décennies maintenant, notamment de groupes rebelles financés, armés par le Rwanda, l'Ouganda, etc., c'est-à-dire les pays des Grands Lacs, qui intervenaient largement dans l'Est de cette République démocratique du Congo avec un État faible et qui a du mal à se défendre dans cette zone-là. Hier, un accord de paix a enfin été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, et un accord de paix qui, sur le papier, donne l'impression d'être plutôt sérieux, avec des méthodes de résolution des litiges, des observateurs, le fait de cesser le financement des groupes rebelles congolais par les pays frontaliers, en tout cas principalement par le Rwanda. Et le tout sous l'égide des États-Unis, qui pour le coup interviennent en rôle de médiateur tiers. Les Européens, ça fait longtemps qu'on est cramé là-bas. Hein. C'est voilà la politique de la Belgique au Congo. Voilà la politique coloniale de la Belgique au Congo et leur comportement post-colonialisme a pas été ouf. La France, avec ce qui s'est passé au Rwanda quand on a essayé de prendre la relève, on n'a pas fait mieux. Donc aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont arbitres là-bas.
C'est rare, hein, puisque en général les Américains ne sont pas en Afrique, hein, ils sont plus au Moyen-Orient que dans les alliances politiques.
Oui, là, il y a clairement un aspect business. Le nombre de diamants et de matériaux rares à aller extraire là-bas,
vaut le coup.
Trump s'implique pas dans des affaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda qui serait pas placé sur une carte d'Asie de toute façon. S'il y a pas un paquet de pognon à se faire et aussi de contrer une éventuelle influence chinoise. Les Américains signant, c'est pas les Chinois qui font signer la paix. Ils en auraient pourtant parfaitement été capables.
C'est pareil puisque là peut-être aussi là tout le camp sur le tu sais en Ouganda là qu'ils ont trouvé des réserves d'or mais la moitié en fait de réserves d'or mondiales, les Américains vont peut-être s'impliquer aussi là-bas alors que je sais pas s'ils en ont vraiment besoin vu qu'ils ont trouvé pour 12 000 milliards de dollars d'or soit 310 000 tonnes d'or quoi et c'est voilà c'est très
En tout cas, il y a quand même une chose qui est importante, par-delà l'aspect business et l'idée que les Américains vont se remettre plein les poches. Moi, j'ai quasiment envie de dire, je m'en fous, parce que là-bas, il y a des populations qui souffrent, qui sont déplacées, qui sont massacrées, des enfants enrôlés dans les milices de force. Si on peut avoir l'espoir d'une paix dans cette zone qui est ravagée depuis 20-30 ans par des conflits, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle.
Voilà, c'est à prendre, voilà. Ça, c'est à prendre.
Donc il reste de l'espoir.
Voilà, il y a toujours de l'espoir. Il faut avoir de l'espoir et agir, hein, même si voilà dans les espoirs on agit et il faut avoir de l'espoir. Donc l'émission touche à sa fin. Peut-être un calendrier programmatique pour cet été, puisque ça sera pas les sessions normales. Hein, peut-être nous ferons l'émission d'autres jours ou voilà, on ne peut pas encore vous annoncer le programme. Mais Philippe, je sais pas pour toi si tu as annoncé des choses.
Non. Avec Thibon, on va garder DT Fabula Narratour au moins jusque mi-juillet. Okay. Et probablement, en réalité, tout au long de l'été, on va essayer de s'arranger pour ne pas interrompre. Okay. Par contre, effectivement, pour des flips et des flops, réunir l'équipe alors qu'on sera tous plus ou moins présents à Lille, on verra ce qu'on arrive à faire.
On verra ce qu'on peut faire. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances à ceux qui peuvent partir, hein, parce que tout le monde ne part pas en vacances. Donc voilà, et là je passe donc pour conclure Neon Tree, First Thing First.
Never gonna get everything you want in this world. First things first, get what you deserve. It was all about me choosing where to go. And I sang, you are never gonna get everything you want in this world. First things first, give what you deserve. You are never gonna get everything you want in this world. First things first, give what you deserve.
myself, and I'm still deciding if I'm something else. I'm a million different people all the time, but there's only one of me to get it right.